Au début de votre analyse de la quatrième béatitude, la béatitude des assoiffés de justice que nous entamons ce soir, vous formulez une prière dans laquelle vous dites « Seigneur, tu m'as donné des forces pour combattre et vaincre. Oriente ces forces pour que je construise dans le sens de la justice. » Fin de la citation. Monsieur Truchon, encore faut-il savoir de quelle justice il s'agit. Quelle définition est-ce qu'il faut donner à la justice au sens de la béatitude, je dis bien, selon vous?
Oui, évidemment, c'est le mot-clé de la béatitude, autrement dit, du chemin de bonheur qu'est cette quatrième béatitude qui suit ceux qui pleurent et qui précède celle qui va suivre les miséricordieux. La béatitude de ceux qui pleurent est en lien avec les miséricordieux, mais en passant par la justice. Alors, cette béatitude, c'est une béatitude extraordinaire, c'est le but de notre vie. Mais encore là, c'est le mot justice qu'il va falloir expliquer pour comprendre que ça peut être le but de notre vie. Parce que la justice au sens où on l'entend, c'est bien, mais la justice seule n'est pas le but de Dieu dans son dessein. Au contraire, la justice sans l'amour, ce serait un échec dans le plan de Dieu. Tandis que l'amour sans la justice est un mensonge. Donc, la justice dont il s'agit ici, comme nous allons voir, c'est pas simplement la justice comme on l'entend ordinairement, c'est-à-dire le respect des droits et de la personne dans ses biens, dans son intégrité corporelle et même spirituelle. C'est plus que ça. C'est en fait, ça va être l'amour aussi, ou si on veut, la sainteté. Alors, il faut falloir expliquer ces termes-là, les comprendre, comprendre leur nature, leur fonctionnement, et ensuite, les mots eux-mêmes, pourquoi on sert de ces mots-là et comment compléter ces mots-là dans notre langage et notre compréhension.
Alors donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la fameuse zekada, de cette justice particulière des Hébreux?
Ouais, ça serait la dernière dont il faudrait définir. J'aimerais peut-être mieux d'abord commencer par les mots faim et soif. Alors, faim et soif de quoi? En fait, tout est là. Faim et soif, c'est la béatitude de nos désirs. C'est-à-dire que nos désirs sont des grâces. Tous nos désirs sont des grâces. Et nos désirs, c'est une première façon de rencontrer Dieu. Et un désir, ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à Dieu. Ça peut partir de la tarte aux pommes, ça peut partir du steak caché, et ça peut monter jusqu'à Dieu. Autrement dit, ça peut commencer dans nos cellules, et ça peut monter jusqu'à la fine pointe de notre âme. Alors, c'est ce parcours-là que décrit cette béatitude-là. Autrement dit, nos désirs doivent être non seulement conscients, non seulement ne doivent pas être trahis dans leur parcours, mais ils doivent être même transfigurés du plan physique au plan spirituel, ou si on veut, au plan de la personne, et finalement au plan même de Dieu lui-même. Alors, c'est la béatitude des sacrements, c'est la béatitude de l'Eucharistie, c'est la béatitude du but de notre vie, c'est la béatitude de l'accomplissement de nos désirs. C'est pour ça que ça se termine par « ils seront rassasiés ». Mais déjà maintenant, nous pouvons aller de rassasiement en rassasiement avec cette béatitude, en la comprenant et en la vivant selon elle-même. Donc, c'est la béatitude de la loi, mais encore là, la loi, c'est finalement une manière d'être. Alors, accomplir la loi, finalement, c'est accomplir la réalisation, c'est réaliser toute la puissance, toutes nos puissances pour qu'elles atteignent leur objet, et autrement dit, l'unité de la personne en elle-même et entre nous, et finalement avec Dieu lui-même.
Cette faim et cette soif dont vous parlez, est-ce que tout le monde l'éprouve nécessairement, consciemment ou pas, ou bien est-ce que ça se développe?
C'est ça, c'est plutôt, il faudrait peut-être dire des fois, plutôt inconsciemment, c'est qu'en fait, on ne réalise pas que tous nos besoins, tous nos désirs, jusqu'au plus intime et au plus profond, au plus personnel et au plus universel, sont en fait à être réalisés par Dieu lui-même. Alors, en fait, tous nos désirs sont déjà des chemins de Dieu qui nous dirigent vers Dieu. Encore faut-il que ces désirs-là aillent d'objet en objet et finalement se transforment ou se transfigurent. Alors, ça peut partir des petits plaisirs au grand plaisir de la présence divine. Ça peut partir des petites connaissances de la beauté d'une fleur jusqu'à la connaissance de l'être aimé que pourrait être Dieu lui-même. Alors, c'est tout ce parcours-là dont il est question. C'est pour ça que c'est la béatitude des sacrements, cette béatitude-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire par la béatitude des sacrements?
Ben, je veux dire que, ben justement, toute chose créée peut servir à nous faire connaître une qualité de Dieu et à nous diriger vers lui, positivement d'abord en nous disant une qualité de Dieu, puis négativement en disant « je ne suis pas ton Dieu, mais je te fais parcourir un bout de chemin pour t'y rendre ». Et finalement, on arrive au sacrement de définition explicite, les sacrements qu'on a dans les religions. Et finalement, on arrive aux 7 sacrements qu'on connaît, et finalement, surtout, à la personne, à chaque personne qui peut devenir un sacrement, à commencer par nous-mêmes.
Le sacrement qui est une forme d'instrument.
Le sacrement qui est un instrument, un moyen, un chemin, puisque notre destinée, notre parcours, vu que cette béatitude-là, c'est la béatitude de nos pèlerinages, nous rencontrons sur nos chemins de pèlerinage des hauts lieux de rencontre, des hauts lieux de perfectionnement, des hauts lieux de réhabilitation, des hauts lieux de fête, tellement que finalement ça nous fait faire le voyage. Alors c'est la béatitude du voyage.
Je reviens à la faim et à la soif dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des moyens d'en devenir davantage conscient?
Oui. Évidemment, c'est le mot justice qui va tout nous indiquer la route. La nature de nos désirs, leur destinée. On peut encore résumer de dire que nous venons au monde par un autre et pour un autre, mais en passant par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut devenir soi-même. Alors, la connaissance de la nature, de la justice, selon cette béatitude, va nous faire voir la manière d'orienter nos désirs et nos instincts pour qu'ils atteignent leurs objets.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous semblez insister sur le fait que cette faim et cette soif-là doivent nécessairement passer par le plan physique avant d'être transformées éventuellement au plan spirituel.
Absolument. C'est les cieux nouveaux et la terre nouvelle vont nous arriver un jour si nous-mêmes nous transformons notre corps matériel ou physique en corps spirituel, c'est-à-dire en corps vertueux, c'est-à-dire en orientant tout vers la connaissance et l'amour de l'être aimé.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous étudions depuis quelques semaines les béatitudes avec Monsieur Raymond Truchon. Et donc ce soir, nous en sommes à la quatrième béatitude, celle des assoiffés de justice. Monsieur Truchon, est-ce que nous sommes prêts à passer au concept de justice lui-même? Vous expliquez qu'il existe deux sortes de justice.
Oui, et nous verrons, en analysant plus dans le détail, ce sera le passage de Eros Ethos à Agapé, c'est-à-dire trois mots grecs, qui nous montrent que le désir qu'on a peut se transformer en bien et en amour divin infini. Alors, c'est le mot justice qui va nous aider à faire cette compréhension et à prendre cette direction et à la garder. Alors, la justice, au fond, c'est quoi? C'est le respect de l'autre. C'est que l'autre est différent de moi. Alors même, par exemple, dans la Trinité, il y a trois personnes divines infiniment distinctes entre elles, et pourtant les trois ne font qu'une seule personne, un seul Dieu infini. Alors c'est pour dire que la communion chrétienne ou le plan divin de Dieu sur chaque homme, c'est pas une fusion ni une confusion, c'est une communion où chacun demeure distinct. La justice, c'est justement ce qui empêche cette fusion puis cette confusion, c'est-à-dire c'est le respect des droits de chacun. L'autre c'est pas moi, moi c'est pas l'autre. Même si on dit je m'aime moi-même, je t'aime toi-même, nous nous aimons nous-mêmes, même si c'est toujours le même, il reste que ce même-là est pas le même pour chacun, à cause c'est le mien, toi c'est le tien. Et finalement, le nôtre, c'est le nôtre qui est quand même différent de chacun. Mais quand même, ce même est un sacrement de Dieu qui, lui, est le gros même de chacun de nous-mêmes. Et en fait, Dieu est à l'origine de chacun de notre moi. Alors, c'est tout ce parcours-là qu'il faut expliquer. Bon, d'abord, la justice, la loi. Évidemment, quand on parle de justice, on parle de loi. Qu'est-ce que c'est que la loi?
Excusez-moi, c'est celle que vous appelez la justice extérieure.
Ça, c'est la justice extérieure, exactement. Alors, nous parlons d'abord de la justice extérieure, qui est la première à être considérée ordinairement. Et ordinairement, dans notre monde, quand on entend parler de justice, au fond, on parle toujours de la justice extérieure. C'est en prenant la Bible que nous pouvons découvrir cette justice intérieure. Alors, parlons de la justice extérieure. La justice extérieure, c'est qu'il y a une manière d'agir envers quelqu'un, comme envers toi, par exemple. Il y a une manière que j'ai d'agir qui va être juste et une autre qui est pas juste. Quand est-ce que ça va être juste? C'est quand est-ce que je vais agir, puis ça te détruira pas, ça sera pour te construire. De telle sorte que c'est d'abord le respect de tes biens. J'ai pas le droit de prendre tes biens. Par exemple, mes biens, c'est que si je fais une table, c'est évident qu'elle m'appartient. Mais si elle m'appartient, un autre n'a pas le droit de m'avoler. Par contre aussi, si je fais une table, j'ai le droit de la vendre, et avec l'argent, j'ai le droit de m'acheter un chat. Alors, si j'achète un chat, c'est à moi le chat, c'est pas à personne d'autre. Et si quelqu'un essaie de me le voler, j'ai ma facture pour dire à la police, ben c'est mon chat. Ça, c'est le respect des biens. J'ai beaucoup déjà, mais c'est pas suffisant. Il y a le respect des droits de la personne elle-même, maintenant, dans son intégrité physique. Si, mettons, que je dis que je t'aime beaucoup, je te donne des coups de pied sur les jambes, tu vas me dire, ben essaye de m'aimer autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui marche pas.
Le message est contradictoire.
Le message est contradictoire. L'extériorisation de mon amour est pas bon, puisqu'il est dans un mouvement de destruction de toi-même. Et ainsi envers moi-même aussi. Si par exemple je me mutile, tu vas dire fais pas ça. Mais si je dis j'aime ça, ça va être encore pire parce que j'ai pas le droit de me mutiler. Autrement dit, je suis pas fait pour me détruire. Je suis fait pour me construire. Donc ça, c'est la justice extérieure, celle qui requiert la police, les droits, les juges, les avocats. Toujours la justice d'une action qui est imputée à une personne.
Celle qui repose sur des règles écrites, des codes.
Oui.
Au fond, c'est celle de l'Ancien Testament aussi.
Aussi, les 10 commandements de Dieu, ce sont celles qui, au fond, décrivent les manières de pouvoir vivre ensemble dans la paix, c'est-à-dire dans un ordre donné où c'est pas l'anarchie, il y a des institutions et on fait pas n'importe quoi. Et la justice de l'un se trouve être la limite de la justice de l'autre. Par exemple, si j'ai 5$, c'est sûr que si j'ai 5$ puis toi t'as 5$, si t'étais pas là, ça m'en ferait 10. Mais t'es là, ça fait que j'en ai rien que 5. Par contre, on va voir tout à l'heure que si on s'aime, on va pouvoir se donner nos 5$. Donc, au fond, chacun va en avoir 10 avec les 5 mêmes de chacun, parce qu'on va pouvoir partager. Mais ça va être la justice intérieure. Alors, la justice extérieure, c'est le respect pour que la personne aille bien selon ses puissances. Alors, mais c'est un échec dans le plan de Dieu, parce que c'est pas suffisant. Si mon voisin a tout ce qu'il faut, puis moi j'ai tout ce que j'ai de besoin, il reste de l'autre bord de sa clôture, puis moi de ma clôture, on n'est pas obligé de se parler, on se vole pas, mais c'est pas terrible. Par contre, quand on se marie, il est conseillé de faire un contrat de mariage, évidemment. Bon, on fait un contrat de mariage, puis là on dit ça c'est à toi, ça c'est à moi, on va faire ci, on va faire ça. Puis là on prend ça, puis on met ça dans le tiroir de la garde-robe, on met ça dans le tiroir du bureau, on passe pas de temps à lire ça tous les soirs quand on s'aime, c'est ridicule.
Autrement dit, c'est une espèce de préalable.
Oui.
Qui sert de fondement pour bâtir l'autre ensuite.
Oui, pour pas que nos instincts se conduisent avec anarchie. Alors.
Mais la justice extérieure, on en a quand même besoin.
Elle est nécessaire, parce que au fond, si je te détruis, je pourrais pas dire que je t'aime. Donc, pour passer à la justice intérieure, il va falloir que la justice extérieure aussi soit travaillée. Alors, on avait vu dans les Béatitudes, selon Luc, qu'il faut travailler à la libération des hommes au niveau social, en produisant des biens, en produisant tout ça, c'était la justice extérieure. Mais on a vu qu'avec surtout la béatitude de Matthieu, faut travailler à l'amour de nous autres, de chacun et des uns des autres. Alors ça, c'est la justice intérieure. C'était la béatitude selon Moïse, selon Élie. Tandis que la justice sociale, c'était Moïse, qui était le prototype de la libération sociale. Tandis que le prototype de la libération intérieure, c'est Élie. Et on va voir que dans Jésus, il y a les deux et il faut les deux.
Vous écrivez au sujet de la justice intérieure, celle que vous appelez aussi, je crois, la justice du cœur et que vous décrivez comme suit. Bon. Amour réel dans le partage, le don, l'admiration, l'échange gratuit, la connaissance, tout cela transcendé par une recherche et une communion à Dieu. Mais vous affirmez que les deux types de justice, que de ces deux types, l'une ne saurait exister sans l'autre.
C'est ça. Ils sont intimement liés. Alors, c'est pour ça que nous allons commencer tout de suite à exprimer un peu la justice intérieure, quitte à les approfondir encore plus chacune ensuite. Alors, pour tout de suite voir le complément, là, le couple, là, si on veut, la justice intérieure, il faut aller à la définition hébraïque de la justice pour y arriver. Parce qu'en passant la justice, en prenant le mot français justice, ça vient du latin jus titia, c'est le droit, c'est-à-dire le respect des droits, c'est la loi, les droits. Si on va au grec, dikaios, ça va pas encore beaucoup plus loin, c'est encore les droits. Mais si on va au grec biblique de la koiné, celui du Nouveau Testament, là on a dikaios une. Ah, dikaios une, ça veut dire le salut. Ah, le salut, là, on commence à comprendre un peu le plan de Dieu. Qu'est-ce que le salut? Le salut comporte deux éléments. Premièrement, enlever les obstacles à la réalisation du dessein de Dieu sur nous, c'est-à-dire devenir soi-même, nous réaliser. Et ensuite, nous diviniser. Ça, c'est l'autre élément du salut. Ça, dikaios une, donc, comprend tous les éléments de la justice. Mais si nous, on va à l'hébreu, là, c'est encore plus clair. Le mot justice en hébreu se dit « tzedaka ». Et « tzedaka » en hébreu, ça veut dire non seulement justice, justice intérieure, mais ça veut dire sainteté. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est pas d'abord se coucher de bonheur, c'est pas la perfection morale, c'est pas ça la sainteté. Ça, je dis pas que ça la rejette, mais la sainteté, c'est pas ça fondamentalement. La sainteté, c'est quoi? Là, nous allons la définir. Et là, nous allons connaître la justice intérieure. La sainteté, c'est la cohérence parfaite entre deux personnes. Donc, c'est l'amour. Alors, Dieu seul est saint parce que lui seul vit une cohérence parfaite entre les trois personnes divines. Ils sont pas syndiqués, ils ont pas de crise de leadership, ils s'entendent tout le temps. Alors, la saint et l'un habitent continuellement dans l'autre et il n'y a aucun obstacle à leur connaissance, à leur reconnaissance, à leur accomplissement l'un dans l'autre. Et chacune comprend l'autre et connaît l'autre et aime l'autre et veut ce que l'autre veut. C'est l'amour parfait.
Vous êtes donc à l'écoute de Radio Galilée. Ce soir, nous abordons la quatrième béatitude, celle des assoiffés de justice. Monsieur Truchon, vous venez de nous annoncer que la quatrième béatitude, c'est également celle de la sainteté. Vous nous avez défini la sainteté. Et j'en déduis qu'il s'agit essentiellement d'une parfaite harmonie avec l'autre, je crois que vous avez bien dit, avec un autre. J'aimerais savoir comment alors un contemplatif pourrait devenir saint.
Ben oui, si le mot moine d'ailleurs vient du grec monos qui veut dire tout seul, s'il était vraiment tout seul, d'abord il ne resterait pas deux jours là. La perfection, la sainteté, c'est de la sainteté d'une communion. Et la sainteté, c'est même la communion dans la miséricorde actuellement entre nous et en nous-mêmes et pour nous-mêmes et pour et avec Dieu. Alors, deux ou trois sont réunis, je suis avec eux, c'est ça la sainteté, c'est la parfaite communion avec un autre, de telle sorte qu'on habite un autre et l'autre nous habite, et toutes nos puissances sont orientées vers lui, et toutes les siennes sont orientées vers les nôtres, et c'est ça le couple, l'amour, la communion. Donc, sainteté, c'est perfection d'une communion dans une cohérence parfaite de toutes nos puissances. Au fond, c'est l'accomplissement d'abord de notre esprit, de notre intelligence, qui est accompli en mettant toutes ses puissances à connaître l'être aimé. C'est l'accomplissement de la volonté qui est de s'abandonner complètement à ce que l'autre désire et ce qui lui fait plaisir, donc l'accomplissement des deux volontés, l'une par l'autre et l'autre par l'une. Et c'est l'accomplissement aussi de nos sens, puisque la beauté se trouve dans la connaissance de l'être aimé. Et à ce moment-là, nos sens sont accomplis aussi par la beauté, donc l'éthos, et par le bien. Et toutes nos cellules, d'ailleurs, sont en état, on pourrait dire érotique, mais pas simplement dans le domaine sexuel, mais toutes dans le domaine de la communion. Alors, au fond, c'est l'assomption de toutes nos puissances, l'accomplissement de toutes nos peut-être on pourrait dire nos niveaux, mais si vous voulez, de toute la cohérence entre les divers règnes de nos puissances. Alors, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, végétatif, le règne animal, le règne humain, et le règne angélique, puis le règne divin. Au fond, l'homme fait le lien en tout ça. Et l'homme-Dieu, qui est Jésus-Christ, fait le lien dans tout ça, et c'est la cohérence parfaite en lui de chacun de nous, qui se trouve accompli en lui, et qui célébrons notre accomplissement. Et c'est ça l'Eucharistie.
Et pour établir la très grande communion avec l'autre dont vous parlez, j'imagine aussi qu'il faut accéder à un très, très grand niveau d'humilité.
Qu'est-ce que c'est qu'humilité?
Il faut savoir s'effacer devant l'autre.
Oui, absolument. C'est quoi l'humilité? C'est donner toute la place à l'être aimé, et non seulement ça ne nous diminue pas, ça nous accomplit. Alors l'humilité, c'est la vérité de soi face à l'autre qu'on aime et qui nous aime. Et finalement, l'humilité, c'est la prise de conscience de notre vérité. Alors, c'est des fois, c'est pouvoir avouer nos limites, bien sûr, mais l'humilité qui est vraiment accomplie, c'est le Magnificat de la Vierge qui se trouve extraordinaire dans les mains de Dieu.
J'ai envie de vous demander, au sujet de la justice intérieure, si c'est un concept relatif ou bien absolu. Je veux dire, est-ce qu'on peut être en cheminement vers une plus grande justice intérieure ou est-ce qu'on l'est totalement ou pas du tout?
Bon, cette histoire de relatif, ça fait deux fois que ça revient d'ailleurs dans l'émission. Je vais l'expliquer un peu. J'aimerais peut-être mieux le mot relationnel. Parce que, au fond, le relatif actuellement, c'est évident que Dieu seul est absolu. Donc, tout est relatif. Bon, c'est évident. Mais, un concept aussi relatif, parce qu'il y a d'autres concepts, tout ça. Moi, j'aimerais mieux, dans le genre d'échange que nous avons, le mot relationnel. C'est évident qu'actuellement, nos relations sont relatives, c'est-à-dire, je dirais qu'elles ne sont pas accomplies. Elles sont en cheminement, en processus de perfectionnement. Mais au ciel, elles seront absolues, nos relations. Elles seront de la vie même de Dieu, c'est-à-dire participant à ses qualités infinies. Alors, tout actuellement est relatif, mais le bonheur qui nous est promis est absolu. Et dans notre espérance actuelle, nous le possédons déjà d'une façon absolue, mais nous n'en vivons pas encore d'une façon absolue. Donc, c'est relatif, oui, mais surtout relationnel. Ça considère des liens entre des personnes qui ne sont pas encore accomplies, qui sont en processus de devenir et de libération et de guérison des fois.
Vous affirmez encore que la justice intérieure, la Zedaka, c'est la correspondance harmonieuse, bienveillante et amoureuse, je dis bien, d'un cœur accordé à un autre cœur. C'est la vibration synchronisée, matérielle et spirituelle entre deux personnes. Matérielle et spirituelle. Cette phrase, elle me paraît une belle définition de l'amour humain idéal, en somme. Vous faites de la justice intérieure une qualité qui doit exister même chez les amoureux, si j'ai bien compris. Alors, on ne peut pas s'aimer en amoureux ou autrement, sans être juste de cette justice intérieure dont vous parlez?
Oui, parce que c'est la source. Au fond, quand Jésus, dans Matthieu 5 à 7, explique la vraie religion, la vraie justice, ce qu'il veut vraiment, ce n'est pas le sacrifice, mais la miséricorde, ce qu'il veut, c'est qu'on ait une vie intérieure, c'est-à-dire que le cœur y soit. Mais évidemment, les œuvres s'en suivent pour exprimer cette relation, pour la nourrir. Par exemple, on a besoin de se faire cuire des rôtis. On a besoin, tout en se regardant et en s'aimant et en se connaissant, c'est bon de prendre un bon repas, c'est bon d'être assis sur une bonne chaise. C'est bon aussi de ne pas donner des coups de pied sur les jambes de l'autre, puis de ne pas être assis, de ne pas avoir les pieds sur ses pieds. Donc, il faut respecter l'autre. Mais l'amour va beaucoup plus loin. C'est que l'amour fait le partage. Alors, je vais donner un exemple ici, là, de différence entre la justice extérieure et la justice intérieure. Je vais donner deux exemples de comportements qui vont illustrer ça. Par exemple, je suis à quatre pieds de vous ou de toi, je ne sais pas si tu as les mains chaudes. Pourquoi? Parce que je ne te touche pas, je ne le sais pas. Alors, mais j'ai une connaissance de toi, mais elle est relative. Elle est relative parce qu'il y a une distance entre nos deux. Et cette distance-là, elle est nécessaire. Et c'est même la définition de la chasteté, ça. C'est d'une saine distance dans nos relations pour que l'autre ne soit jamais assimilé à soi et jamais soi soit assimilé à l'autre.
Et vous parlez pas seulement de distance physique?
Je parle du respect de l'autre. Alors ça, c'est la première chose d'une relation. Et si ça, c'est pas respecté, on va ressortir le contrat de mariage du tiroir de la commode, puis on va leur lire, parce qu'on va dire un instant, là, ça marche plus, là. L'un abuse de l'autre, l'un donne tout, l'autre donne rien, ça marche pas, ça. Alors là, il n'y a plus d'amour. Alors donc, le tiroir, le contrat de mariage, il reste dans le tiroir du bureau tant qu'on se respecte.
Oui.
Mais si un jour on se respecte plus, on le sort. Puis si on continue pas à le respecter, c'est le matelas qui sort par la fenêtre. Autrement dit, ça va être la séparation. Alors, mais par contre, en le sortant, ça peut nous aider à nous retrouver, mais à condition de se pardonner, puis de retrouver la justice d'abord, puis ensuite, l'amour.
Il faut que l'amour y soit toujours.
Il faut que l'amour y soit toujours. C'est ça le mariage. C'est ça le but de la vie. C'est la communion. C'est pas rien que la justice. Mais il faut de la justice. Alors, c'est comme mon estomac, ça. Le contrat de mariage, il est dans le tiroir du bureau tant qu'on s'aime. Mais quand on manque de respect, là, on sort le contrat. Alors, c'est comme mon estomac. Mon estomac, quand il est en bonne santé, je sais même pas que j'ai un estomac. Le contrat de mariage est dans le tiroir du bureau. Je sais même pas que j'ai un estomac. Mais quand je suis en amour, je sais même pas que j'ai un estomac. Mon estomac est en santé, ça va bien. Mais moi, si j'ai mal à l'estomac, là, je vais savoir que j'ai un estomac. Et ça va nuire à l'amour si j'ai mal à l'estomac. Il n'y a rien à faire, ça va être un handicap. Alors, c'est pour montrer que la justice, c'est le bon fonctionnement de nos puissances, mais l'amour, c'est leur accomplissement. Un autre exemple. L'exemple, par exemple, d'un gars qui a 40 ans, qui a un bon salaire, puis qui est libre parce qu'il est devenu autonome, il a développé ses puissances. Tous les soirs, à 7 heures, il part, il peut partir n'importe quand, n'importe qui l'appelle, il peut toujours y aller, il est libre. Mais il est juste, il respecte chacun, la police le laisse passer, il n'y a pas de problème. Mais si, à un moment donné, un jour, il rencontre une femme, puis il commence à l'aimer, là, il commence à avoir elle souvent, puis pas les autres, puis elle souvent, puis elle souvent, puis elle souvent. Alors là, les autres, à un moment donné, vont l'appeler, vont dire « Hey, t'es plus libre, toi, là. » Il va dire « Non, mais je t'assais bien, je suis libéré. » Là, il vient de passer à une justice intérieure. Et son salaire, maintenant, à quoi qu'il va servir? À l'autre. Et si à 10 piastres, il va dire à l'autre « Si t'en as besoin, t'as rien qu'à me le dire. » Alors, à ce moment-là, la justice de l'un extérieur ne limite plus la justice de l'autre. Au contraire, les deux s'additionnent. Et c'est ça la société parfaite que les religieux ont à symboliser et à promouvoir dans le monde pour montrer que on devrait vivre comme ça en fraternel, en fraternité, mais toujours en se respectant, en payant ses tomates puis tout ça. Un autre exemple encore qui fait bien voir. Mettons que je suis ami avec quelqu'un, je l'invite au restaurant. Alors, si je suis ami avec, je vais y offrir à payer. Mettons que le repas coûte 10 piastres chaque. Alors, évidemment, je vais dire, c'est moi qui paye. Si elle veut, elle dit non, c'est moi qui paye. Ben là, écoute, là, ça va me blesser. Si on est amis, je veux qu'elle accepte que je paye. Si on est amis, je vais payer, ça va me coûter 20 piastres. La prochaine fois, c'est elle qui va vous dire, moi, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Elle va dire, oh, non, paye pas. Oh oui, c'est moi qui paye. Et ça va coûter encore quand même rien que 20 piastres, donc 40 en tout. Au fond, au plan économique, il n'y a rien de changé, mais au plan spirituel, tout est changé. C'est que là, elle me paye mon repas, je suis tout content. Pas parce que j'ai pas l'argent, parce qu'elle m'aime. Alors, dans la justice intérieure, tout est accompli.